bonjour. Et bon, tout d'abord, je voudrais remercier aux collègues de l'URMIS par cet important événement académique. Je me réjouis d'avoir rencontré beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, qui étudient ce type de sujets, de thématiques. Je vous félicite aussi parce que je sais bien que ce n'est jamais si facile d'ouvrir des sujets de recherche si complexes d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue politique. Et cela dit, je ne peux pas m'empêcher de commencer ma conférence en évoquant les contextes actuels caractérisés par la montée des idéologies de droite partout dans le monde, des droites qui participent d'un mouvement réactionnaire néoconservateur qui ont réactualisé les idéologies et les théories racistes ayant comme bouc émissaire la question migratoire dans quelques pays, soit des Syriens ou des Africains en Europe ou même des Vénézuéliens en Amérique du Sud. Le racisme paraît reprendre nouvelle énergie sous de nouvelles façons d'expression, mais en continuité avec des processus qu'autrefois nous pensions éliminer de l'histoire de l'humanité. Ce petit commentaire me permet de situer les fils conducteurs que je voudrais développer dans mon intervention. Il s'agit du caractère ancien et à la fois contemporain du racisme, voire des continuités et des transformations du racisme dans les sociétés contemporaines. Pour ce faire, je voudrais approfondir dans l'analyse du racisme dans son champ social qui est si difficile et complexe à étudier, tel que l'éducation. Cette difficulté est à la base de la conception même depuis son origine historique, d'un côté comprise comme les moyens de formation des citoyens, voire l'institution chargée de socialiser les individus et créer de la cohésion sociale, ainsi que pour garantir la mobilité sociale dans l'échelle hiérarchique de la société. D'un autre côté, l'éducation entendue comme un des champs sociaux clés pour la reproduction des inégalités et des privilèges, mais aussi en étant les garants de la reproduction de la domination symbolique par la consolidation de la culture légitime, y compris les savoirs, dans une société concrète. Parler de racisme dans l'éducation nous amène donc au nœud de la domination symbolique qui a des conséquences sur l'exploitation matérielle et vice-versa. Le dilemme étant que les groupes minoritaires, même s'ils trouvent des voies de mobilité sociale à travers l'éducation, participent eux-mêmes de la légitimation du champ éducatif et sa composante idéologique plus importante, la méritocratie. Je voudrais articuler donc ma participation à partir de 3 éléments qui sont en liaison avec les processus d'éducation. D'abord, analyser le racisme à l'école, en ce que je propose de comprendre en tant que racisme prosaïque, dans la mesure où il est exprimé d'une façon brutale, presque sans médiation, entre les enfants. Ce racisme constitue donc le processus de racialisation primaire, qui est en parallèle avec la socialisation primaire. En deuxième lieu, je voudrais parler de ce que je propose entendre en termes de processus d'euphémisation du racisme. Ce processus est plutôt un changement qualitatif du racisme qui s'exprime plutôt à l'université. Finalement, je voudrais dessiner quelques idées par rapport à l'étude du racisme dans l'éducation et les processus de résistance et lutte antiraciste. Et là, je voudrais mentionner que ces réflexions viennent d'une recherche que j'ai effectuée il y a pas mal d'années. Et c'est une étude comparée entre la France et la Colombie, de l'expérience vécue des étudiants dits noirs en Colombie et en France. Et là, je ne pourrais pas m'attarder à contextualiser les deux pays. Mais bon, bien sûr, il faut dire que la France est un pays dont il y a une construction de la nation en tant que nation universelle. C'est l'universalisme républicain. Et la Colombie, un pays de l'Amérique du Sud qui a eu quand même pas mal d'influence dans la construction de la nation à partir des États européens. Dans chacun des pays, il y a bien sûr des minorités racialisées ou ethniques, dont les populations noires sont aussi très importantes par des différents processus migratoires. La méthodologie de mon enquête s'est basée sur des entretiens approfondis auprès des étudiants universitaires dans chacun des pays, en région parisienne et à Bogota, et des étudiants auto-identifiés en tant que noirs selon les caractéristiques de chaque pays. Disons que c'est un peu ça ce que je voudrais noter. Et j'ai triché un peu parce que dans le titre, je parle beaucoup de racisme et discrimination raciale à l'université. Mais il m'a paru aussi intéressant de proposer quelques résultats ou quelques réflexions par rapport au racisme à l'école en faisant une écho du titre de ce colloque. Et c'est intéressant parce que les rapports ou les récits que vous allez écouter ici par rapport à l'école, ce sont des récits qui se sont retrouvés à partir des entretiens avec des étudiants universitaires. C'est-à-dire qu'il y a un processus de réflexivité très important qui a permis aux étudiants de faire une analyse et prendre conscience d'un racisme qui était auparavant un peu caché. Et je pense que c'est très important, surtout d'un point de vue de méthodologique et épistémologique, dans l'étude du racisme. Il convient donc de rappeler les concepts de racisme quotidien mentionnés par Philomena Hesse, dont on a eu la chance de l'écouter hier, et qui a été d'une importance capitale dans ma recherche, car ces concepts permet de faire le lien entre les composants structurels et individuels du racisme. En ce sens, et là je cite Philomena Hesse, il est donc possible de parler d'un racisme quotidien comme de l'activation situationnelle des dimensions raciales dans les relations particulières, de manière telle qu'elle renforce l'inégalité raciale et contribue à de nouvelles formes d'inégalité sociale. Dans une perspective analytique, il s'agit donc de définir une série de spécificités du racisme au quotidien afin de comparer les deux pays étudiés et de comprendre le racisme à l'université. Donc là, je propose la catégorie de mécanismes, qui est une catégorie très répandue en sociologie, et issue des théories linguistiques de la narration et utilisée dans les études pionnières du racisme. Par exemple, Théon Van Dyck, Labov et Waletsky, Philomena Hesse, etc. Et elle renvoie à la notion de nœud dans les histoires et permet d'organiser les informations sur les événements et les actions qui sont interprétées comme disruptives ou décalées par rapport à ce qui est considéré comme normal. Il s'agit donc d'une description et d'une interprétation des actions par rapport aux normes et valeurs que l'on a sur la conduite qui peut être acceptable ou non. Ces mécanismes du racisme renforcent donc la position subordonnée des étudiants noirs dans les deux pays, dans des situations qui sont considérées comme injustes par rapport aux règles de jeu qui sont supposées partagées par tout le monde. À cet égard, les mécanismes du racisme reposent sur des rapports de domination sous-jacents aux situations sociales. Donc là, le premier point qui est lié à la racialisation primaire et le racisme prosaïque à l'école. Et l'idée centrale que je voudrais développer dans ce point est liée à l'existence d'un continuel processus de racialisation en termes de noirs dans les trajectoires sociales des étudiants interviewés, hommes et femmes. Cette trajectoire nous renvoie à des configurations de genre, de classe sociale et d'origine géographique, pour ne citer que les plus importants. Il s'agit donc d'une racialisation complexe liée à d'autres systèmes de domination sociale. Je voudrais ici remarquer le fait que les catégories sociales attribuées ou revendiquées par ces personnes ne sont pas une invention abstraite du chercheur dans un but analytique, mais que ces jeunes, la majorité issue des classes populaires et des classes moyennes, sont l'objet d'une racialisation telle qu'elle les rend susceptibles d'être identifiés comme noirs dans leurs contextes sociaux respectifs. Et là, je réponds aux critiques qu'on entend beaucoup, qui disent que nous, les chercheurs, nous inventons des catégories analytiques qui n'existent pas dans la réalité sociale. C'est en ce sens que nous entendons que ces catégories raciales sont sociales et non essentielles d'un point de vue symbolique et qui sont à la fois historiques et politiques. L'idée du racisme prosaïque, hier on a parlé du racisme ordinaire, je pense qu'il y a des ressemblances, est constituée à partir d'une racialisation primaire dans les doubles sens, c'est-à-dire celui de la socialisation primaire, mais aussi qui est vécue à l'éducation primaire, soit à l'école. Cette racialisation est fondamentalement violente, physiquement et symboliquement, et aussi psychologiquement. Pour le dire d'une façon plus simple, ce racisme prosaïque est lié au moment dont les enfants prennent conscience de sa définition par autrui en tant que noir, et que cette désignation est chargée des caractéristiques négatives qui légitiment des traitements à la fois différenciés et injustes, quelquefois représentant des traumas psychologiques et parfois des sentiments de déni de soi. Comme il a été déjà exploré dans d'autres analyses, et ici, vous le voyez bien, je note surtout l'intéressant travail de Van Usdael et Joe Figgin, intitulé « The First R, How Children Learn Race and Racism », l'école devient un des contextes les plus importants pour que les enfants apprennent à identifier et utiliser des catégories raciales en tant que catégories valides des rapports aux autres. De même que pour la construction d'une identité racialisée, soit dans les champs des dominés ou des dominants. Et là, je pense qu'il faut tenir compte que lorsqu'on parle d'études de racisme, d'études de racialisation, etc., des fois on oublie l'autre côté de la monnaie, c'est-à-dire s'il y a une racialisation des groupes en tant que noirs, indigènes, etc., il y a toujours la construction d'une population dominante, soi-disant une population blanche. Et là, vous pouvez lire, bon, il y a, c'est un petit récit, d'une étudiante qui m'a raconté ça. Je cite, moi je me rappelle, j'ai ma petite soeur, ma cadette, elle est revenue de l'école un jour, elle était choquée, elle était en pleurs. Je suis noire, pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'étais noire? Ça m'a toujours marqué, ça me marquera toujours. Enfin, tu vois, c'est une expérience douloureuse, tu apprends à être toi dans le regard des autres. Et c'est pour ça que je parle ici d'une sorte de racialisation primaire. Et c'est le moment dont les gens prennent conscience de sa condition minoritaire. Le racisme prosaïque s'exprime par divers mécanismes comme l'infériorisation, laquelle peut se nourrir avec d'autres mécanismes tels que le dénigrement culturel ou bien la comparaison avec des animaux, ce qui relève d'un processus très violent de déshumanisation. Le répertoire du racisme à l'école est assez large. Il peut relever des blagues, des surnoms, des commentaires ou des insultes. Et la pratique de commenter les traits physiques des élèves est très fréquente. Ainsi que le fait de les labelliser en tant que noirs au lieu de les appeler par leur prénom. Il y a une autre citation. Quand je suis arrivé à l'école primaire, le premier mot qu'on m'a dit, c'est « Ah, les noirs ». Le noir, parce qu'en effet, à la télé, il y avait un dessin animé à l'époque où il y avait une vache qui parlait à son psychiatre et la vache, elle était toute noire. Elle s'appelait la noirotte. Et donc, quand les élèves, ils me voyaient, ah, il est noir. Mais je ne sais pas s'ils savaient, ils devaient écouter ce que les autres disaient. Ils s'étaient méfiants sur le moment. Bon. Là, je cite mais quelques citations, mais bien sûr que dans la recherche, bon, bien sûr que j'ai trouvé beaucoup plus. Donc, l'expression violente du racisme au milieu scolaire semble être une constante dans les expériences vécues par les étudiants. Le racisme prosaïque s'exprime aussi par d'autres mécanismes tels que la censure, la démotivation et l'intimidation. Cette dernière est plus évidente lorsqu'il s'agit de violences physiques. La violence physique semble être un point de saturation d'autres manifestations précédentes du racisme. L'intimidation sert à mettre les choses à leur place, c'est-à-dire au maintien du status quo, des relations hiérarchiques en guise d'avertissement face à des possibles subversions de l'ordre socio-racial. Dans la plupart des situations repérées, il existe aussi la problématisation des étudiants noirs qui renvoie à la classique culpabilisation des victimes du racisme, mécanisme qui suit de près un autre très courant à l'école qui est l'isolement. Donc là, je reviens à des choses qu'on a discuté un peu hier et aujourd'hui, et je pense qu'on trouve quelques repères dans les différentes recherches. Maintenant, je voudrais passer au deuxième point sur le racisme à l'université et les processus d'euphémisation. Cela m'a paru très intéressant, cette idée d'euphémisation, parce que il paraît qu'au moins à l'université, il y a une sorte d'éthos universitaire qui ne permet pas d'avoir ce type de remarques si, brutales et ouvertes. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'université, il n'y a pas de racisme. Au contraire, c'est un changement, si vous voulez, qualitatif d'expression du racisme. L'accès limité à l'enseignement supérieur et la segmentation entre certaines disciplines ou institutions éducatives sont donc les résultats des processus spécifiques de discrimination systémique, lesquels aboutissent à des inégalités accumulées depuis l'école primaire et vont causer des difficultés d'apprentissage une fois à l'université, mettant en péril la continuité, parfois, des projets d'études des étudiants noirs. En ce sens, les concepts de racisme quotidien, je rappelle un petit peu, prétend aller au-delà des perspectives macro-sociologiques selon lesquelles les institutions et les structures sociales sont indépendantes des pratiques de la vie quotidienne, comme quelque chose qui est au-dessus du niveau concret de la pratique de l'expérience. Il s'agit donc de mettre en évidence l'interdépendance mutuelle des dimensions macro et micro du racisme. Ainsi, les structures du racisme, à l'évidence, n'existent pas de manière extérieure aux acteurs sociaux. Elles sont produites par eux. Par définition, les pratiques spécifiques sont racistes quand elles activent des inégalités raciales et structurelles dans le système social, et dans notre cas spécifique, on pourrait dire quand ces pratiques réactivent les hiérarchies fondées sur l'idée de race dans le système éducatif. De l'analyse détaillée des entretiens, j'ai trouvé un peu plus de 40 mécanismes au travers desquels se manifeste le racisme quotidien tant dans les universités colombiennes que françaises. Je ne vais pas tout développer ici. Je voulais nommer plutôt les mécanismes qui reviennent le plus souvent dans les récits des étudiants interrogés. Et pour mieux comprendre ces mécanismes, il est nécessaire de tenir compte d'une autre dimension analytique des situations sociales discriminantes qui se déploient dans des milieux spécifiques dont au moins 4 doivent être mentionnés. Là, vous voyez dans les carrés, c'est le mécanisme, et dans la graphique, on voit les situations ou les milieux spécifiques dont il y a pas mal de discriminations racialisées. Bon, les jobs étudiants est un milieu très important dans les récits des étudiants. Il fait partie de la vie étudiante lorsque les jeunes réalisent des activités économiques à côté des études. C'est justement dans ce type de situation que nous avons trouvé une présence importante des récits de discrimination. Et là, je vais citer un morceau d'entretien qui me paraît très intéressant. Il y a cette fille qui me dit, donc, je me dis que déjà, que ce n'est pas facile d'être noir, parce que quand même, on a beau essayer de ne pas faire attention à ça, il y a quand même des gens qui font attention au fait qu'on est noir. Dans les CV, ou quand tu présentes une lettre de motivation, quand tu fais un entretien pour un travail, Mais alors, pour un garçon, être un garçon grand et baraqué, avoir une tête un peu d'agresseur, tu dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est marqué sur ma tête? Au début, quand j'ai envoyé mes CV pour avoir un travail, je mettais toujours ma photo. Parce que je n'avais pas du tout envie de tomber sur quelqu'un qui dise, ah, elle est noire. Bon, ça ne va pas aller. Alors, j'avais pas compris et je lui ai demandé si elle ne mettait pas la photo. Elle me répond, si, je mettais toujours ma photo pour que la couleur soit annoncée. Qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Que les gens essayent de trouver d'autres raisons de ne pas être embauchés que la couleur de la peau. Donc, je me disais, je mets ma photo, comme ça, les gens, quand ils vont me recevoir, savent que je suis noir. Il n'y aura pas de problème ou de changement d'avis en dernière minute. Parce que ça, j'ai très peur d'être discriminé plus tard par rapport à ça dans ma vie professionnelle. Donc, il est important de remarquer la phrase « pour que la couleur soit annoncée », car elle constitue l'un des mécanismes déployés pour faire face aux discriminations lorsqu'il s'agit d'accès aux ressources importantes pouvant garantir les conditions économiques des étudiants. Les discriminations sont donc plus prononcées au moment de la distribution des biens matériels ou symboliques ayant une importance dans le développement des carrières universitaires des étudiants, comme c'est le cas des thèses, des mémoires et soutenances, ainsi que l'accès aux stages. Ce sont des processus clés pour avoir les diplômes, mais qui relèvent d'une grande conflictualité. Nous y avons repéré une prédominance des situations discriminantes car une proportion importante des étudiants interrogés était en troisième cycle. Dans ces situations, une variété d'acteurs sociaux peut intervenir, tels que le jury de thèse ou bien le directeur des travaux ou les bailleurs de fonds. De même, en étroite relation avec la configuration du système éducatif français, nous y trouvons des situations liées aux postes d'ATER et des monitorats. Également, le stage est l'un des aspects les plus importants de l'intégration entre le système éducatif et le système professionnel, considéré comme une étape indispensable dans les formations les plus techniques et professionnelles. Ces dernières constituent aussi des moments importants pour étudier les manifestations du racisme et des discriminations, car ces moments représentent le passage de la vie étudiante au monde du travail. Et dans ce contexte, se reproduisent des stéréotypes liés surtout à la performance intellectuelle des étudiants qui peuvent devenir des collègues à l'université. En ce qui concerne le mécanisme de manifestation du racisme dans les universités, l'un des plus importants est celui de mésestimer ou de sous-estimer les résultats ou les statuts de quelqu'un. Son rapport avec les éléments les plus structuraux de la domination socio-raciale consiste à renforcer l'idée reçue d'une supposée infériorité intrinsèque des étudiants noirs. Cette infériorité serait manifestée par une faible performance supposée ou attendue plutôt dans les études. Et ici, je cite un morceau d'entretien aussi. Et elle me dit, parce que quand même, j'ai bossé à Tours, bon, ça s'est passé bien. Les collègues étaient sympas, mais je sais qu'en parlant avec des gens, avec les collègues, j'ai toujours su qu'il y avait ces petits doutes sur moi parce que je n'avais pas le concours. Alors que le concours, il est ouvert à Bac plus 3, et moi, j'étais inscrite en thèse et j'avais ma licence. Ça fait longtemps que j'ai fait ma licence, il y a 10 ans. Mais ils se disent encore que si je l'ai passé, je ne l'aurais pas. Tu vois, alors que j'avais enseigné, j'ai commencé ma thèse, même aux États-Unis, j'ai enseigné à l'université. Et là, c'est, oh là là, quel exploit, tu sais, oh là là, tu es admissible au CAPES, et tu as fini ton doctorat, et oh là là, bravo, bravo. Et moi, je pense que c'est insultant de croire que je peux rater mon CAPES aujourd'hui. Bon. Dans cet extrait, il peut se repérer un mélange d'incrédulité et de surprise. D'abord, il n'est pas envisageable que l'étudiante puisse réussir son examen, mais lorsqu'elle a eu du succès, l'incrédulité se transforme en surprise. Tous les deux associés à une idée autour de l'incapacité des étudiants noirs pour avoir de bons résultats académiques. Ce sont des situations types dont l'étudiant racialisé perçoit une réaction de l'autre, parfois inconsciente, et ça il faut le dire, qui dénote une sorte d'étrangeté car il n'est pas attendu comme quelque chose de normal dans le script de l'interaction sociale, script dans le sens de l'interactionnisme symbolique d'Irving Goffman. En ce qui concerne donc, pour finir, l'université, le principe d'infériorisation le plus important est lié aux capacités intellectuelles des étudiants racialisés. Et c'est pour ça que je parle plutôt d'un processus d'euphémisation, parce qu'on ne va pas le dire ouvertement, mais il est toujours là. L'éducation est l'un des champs sociaux où des capacités sont censées d'être développées et démontrées à travers la note et la bonne conduite. Ce dernier élément est fondé sur un supposé comportement standard, voire moral, que les étudiants noirs n'ont pas par nature. Et là, j'ai trouvé aussi des ressemblances avec ce que Philomena Hesset nous proposait hier matin autour de l'idée de cultural cloning. Et ici, je voudrais en finir ma conférence avec un troisième point, avec l'idée de, pour mieux faire face au racisme, il vaut mieux le caractériser. C'est-à-dire, il faut vraiment l'étudier. Donc, le premier résultat est qu'il s'agit d'étudiants qui sont quand même passés par des processus de relative mobilité sociale. Bon, j'ai interviewé des étudiants universitaires, et malgré les racismes et les discriminations auxquelles ils ont été confrontés dans leur trajectoire éducative à partir de l'école. C'est-à-dire qu'ils ont eu quand même la possibilité de surmonter certains de ces processus discriminatoires, mais cependant, même après avoir franchi ces barrières ou avoir brisé ces plafonds de verre, ils continuent à faire face dans leur vie quotidienne à des traitements qui peuvent être vécus comme inégaux et injustes. Certaines de ces situations ont des conséquences sur leur future trajectoire éducative et professionnelle. Elles laissent également des séquelles psychologiques, aspects que nous n'avons pas ici traités, mais qui méritent d'être étudiés par d'autres recherches. Un second résultat est que la réalité sociale du racisme et des discriminations à l'université peut être nuancée quand on la compare avec le mécanisme du racisme quotidien identifié dans l'éducation primaire et secondaire. Bien que ces deux niveaux d'éducation ne soient pas une priorité ou n'étaient pas une priorité dans mon étude au départ, ils ont constitué l'une des découvertes les plus importantes. Le racisme et les discriminations qui ont été identifiées à l'école nous montrent comment les processus de racialisation de certaines personnes en tant que noires commencent très tôt lors de la petite enfance. Cette conclusion est confirmée par certaines études qui ont montré que les catégories raciales font partie des cadres quotidiens d'interaction des enfants, garçons ou filles, et contribue ainsi à la création précoce d'une distinction identitaire entre un « j'ai » en nous et un « lui », « eux » ou « elle » racialisé. Cette observation concerne les processus précoces d'hétéro-assignation catégorielle comme « noir », mais aussi les caractères répétitifs des situations quotidiennes et les caractères cumulatifs des processus de discrimination systémique tout au long des trajectoires et des expériences des étudiants universitaires. Le contraste avec le monde de l'école nous a donc permis de constater que l'université, si elle n'est pas exemptée de racisme, semble exercer une sorte d'effet de contexte qui interdit une expression évidente, explicite ou agressive du racisme, ce que nous avons appelé le processus d'euphémisation. Cependant, nous ne voulons pas, par cette affirmation, minimiser les manifestations explicites du racisme que j'ai pu identifier au sein même des campus universitaires et dans d'autres contextes liés à la vie universitaire. Donc, pour cela, je voudrais dire que, quand même, j'ai trouvé aussi des pratiques ouvertement racistes et parfois violentes à l'université. En troisième lieu, le fait qu'à l'université, le racisme quotidien ait tendance à se manifester d'une manière moins explicite et plus dissimulée qu'à l'école ne signifie pas nécessairement que la position minoritaire attribuée socialement aux personnes noires dans la société française et colombienne soit moins importante. À ce sujet, l'une des questions présentes tout au long de cette recherche fut la relation avec la particularité, dans la mesure où elle existait, du racisme et des discriminations dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement à l'université. L'analyse nous a indiqué une série de préjugés et de mécanismes quotidiens que l'on pourrait facilement retrouver dans d'autres domaines sociaux, comme celui de l'emploi et du travail, ainsi que celui du logement, pour n'en citer quelques-uns. Cependant, je pense que la clé de cette particularité se trouve dans les principes même de légitimation du système éducatif, c'est-à-dire dans le mérite supposé des étudiants universitaires. La domination raciale dans l'enseignement supérieur est fondée, en ce sens, sur le caractère arbitraire de la valeur au mérite qui, en théorie, ne devrait pas laisser place à cet arbitraire. La domination est donc double et a toujours pour conséquence la minorisation des étudiants noirs dans le système éducatif. Le mérite dans l'enseignement supérieur renvoie à l'ordre de l'intellectuel et du maniement des connaissances établies comme valides et légitimes. Ces qualités constituent ainsi la toile de fond d'un processus de minorisation des étudiants dans les universités françaises et colombiennes, où l'idée de la race est accompagnée d'une infériorité intellectuelle supposée des étudiants noirs. Et dans une perspective plus théorique, la particularité des discriminations dans un champ social spécifique dépend des principes et des valeurs de légitimation de la domination sociale qui y règne. Ainsi, les processus de discrimination systémique sont étroitement liés aux phases, étapes ou filtres de sélection sociale établis dans les champs sociaux. C'est-à-dire, je pense que pour mieux comprendre le racisme, il faut l'étudier spécifiquement dans des champs sociaux spécifiques. De même, les mécanismes, les manifestations du racisme quotidien visent à maintenir la domination sociale et le privilège des dominants à partir de la délégitimation des éléments symboliques ou matériels qui garantiraient une certaine mobilité ou amélioration de la position sociale et du statut des personnes et des groupes minorisés. Et je pense que c'est pour cela qu'on peut entendre les données qu'on a proposées précédemment par rapport au capital culturel et comment le capital culturel n'est pas vraiment associé aux meilleurs résultats. Donc, et là, je vais finir, et là, je vous remercie.
On a le temps de prendre quelques questions. Oui, bonjour. Et si j'ai bien compris, vous avez fait votre recherche en la Colombie, Bogota, et aussi ici à Paris, non? Donc, je voudrais savoir si vous avez trouvé des différences par rapport au racisme entre Bogota et Paris, surtout par rapport à la dimension du genre. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ici, l'Amérique latine, les genres, et surtout les matismes, ça fait quand même un peu la différence entre un plan de discrimination quoi. Et oui, voilà.
J'ai vu qu'il y avait des citations quand même assez claires sur des expériences de racisme et je voulais savoir si durant vos entretiens, vous avez rencontré spécifiquement en France ou à Bogota aussi, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour aborder ce sujet avec vos enquêtés? Est-ce qu'au niveau, au moment justement d'analyser les entretiens que vous avez eu du mal à trouver des exemples clairs? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir le mot racisme? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir des expériences? Ou est-ce que c'était quelque chose de plutôt facile? Et si c'était facile, du coup, comment avez-vous trouvé vos enquêtes?
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais partager avec vous une observation de terrain qui peut-être vous fera réagir par rapport aux questions de catégorisation que vous avez pu expliciter et d'infériorisation. J'enquêtais dans une classe de CM2 dans un quartier prioritaire des politiques de la ville. Cette classe était composée de 90% d'enfants noirs et l'institutrice, l'enseignante, ses deux parents sont indiens et j'observais un moment où ils échangeaient sur Martin Luther King et donc sur la question de la couleur de peau. Et l'échange entre l'enseignante et les élèves était très intéressant puisque pour les élèves, l'enseignante, c'était la seule non blanche, la seule enseignante non blanche de l'école, et pour les élèves, elle ne pouvait pas être noire ou elle ne pouvait pas ne pas être blanche parce qu'elle était maîtresse. Et du coup, elle disait, mais vous voyez bien que je ne suis pas blanche. Et il y avait un débat entre les élèves pour qui elle était maîtresse. Et donc, ce n'était pas compatible avec le fait de ne pas être blanche, et ils ne l'avaient pas intériorisée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai enquêté pendant un an, et ils étaient presque tous persuadés qu'on était sœurs avec l'institutrice.
Je voudrais répondre, parce que sinon... Okay. Je vais oublier. Bon, oui, bien sûr, j'ai parlé plutôt des ressemblances, pas beaucoup de différences, parce que je voulais surtout montrer les grandes tendances, les tendances et plutôt d'un point de vue analytique. Bien sûr qu'au niveau de chacun des pays, il y a des processus et des mécanismes différents, et qui renvoie aussi à la condition contextuelle de chacun des pays, la construction de l'ordre socio-racial. Par exemple, en France, il faut dire que j'ai fait cette enquête il y a à peu près 10 ans, donc les choses peut-être ont bougé depuis, mais... À l'époque, c'est un mécanisme qui appartient qu'à la France, et c'est toujours renvoyé à une condition d'étrangère aux étudiants noirs. C'est-à-dire, il n'y a pas cette notion dans la construction de l'identité nationale, d'être noir, c'est plutôt on pense que ce sont des immigrés. Par contre, et là, je n'ai pas dit, mais il faut le dire maintenant, j'ai interviewé que des Français, c'est-à-dire des citoyens français. Et la plupart de mes interviewés sont nés et grandis en France. Donc, c'est une question très intéressante parce que, en parallèle, en Colombie, un des mécanismes les plus importants a été l'exotisation culturelle. Et je pense que c'est aussi lié à la construction assez récente de l'identité nationale colombienne en tant que nation multiculturelle et pluriethnique. Donc, on fête un peu la diversité, mais à partir d'une sorte d'exotisation culturelle qui, bien sûr, reproduit une sorte de racialisation. Par rapport au genre, bien sûr qu'il y a aussi des différences. Je n'oserais pas dire que... j'aime pas trop cette idée de la culture latino-américaine en tant que culture machiste. Je pense qu'il y a toujours des constructions genrées des rapports sociaux et qui appartient, disons, dans un processus qui n'est pas être analysé d'un point de façon écartée. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment aussi de racialisation rangée, si on peut dire. Et par exemple, il y a toujours l'exotisation sexuelle des étudiantes noires, des étudiantes des femmes, et dans chacun des pays. Et pour les hommes, il y a toujours la criminalisation. C'est-à-dire, un homme jeune et noir égale et criminel potentiel. Donc, et bien sûr qu'il y a d'autres choses qui jouent. Ici en France, peut-être la condition musulmane, etc., la religion, etc. En Colombie, peut-être lié au fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes noirs qui participaient dans les guérillas, etc. Mais il y a toujours cette dimension rangée du racisme. Et pour ce qui est des expériences et de l'enquête même, et je pense qu'il y a aussi, et là je pense que c'est aussi une différence très importante d'un point de vue du genre, c'est que les entretiens, la plupart du temps, étaient beaucoup plus faciles avec les femmes qu'avec les hommes. Mais il y a beaucoup d'études qui ont déjà montré ça, c'est-à-dire dans les situations d'entretien, les hommes, nous avons beaucoup plus de tendance à être plus sérieux, à ne pas trop s'ouvrir, à ne pas trop dire des choses. Bon, ça fait partie aussi des constructions des masculinités. Et dans chacun des deux pays, c'était beaucoup plus facile de parler avec des femmes. Et il y a d'autres différences qui sont très importantes aussi. Et cela dit, c'est aussi la racialisation dont je suis parti ou dont je suis l'objet dans chacun des pays. Donc ici en France, au début, et c'est pour ça que je vous ai dit, l'enquête je l'ai fait en 2008, et il y avait toujours le peur de nommer la race, de nommer les mots noirs, etc. Et moi j'avais peur, quoi. Au début de ma thèse, j'ai dit, bah écoute, je me suis monté dans cette bus de comparatif, machin, Colombie, France, etc. Là, je laisse tomber. Bon, heureusement, les gens de l'URMIS ne m'ont pas laissé quitter la recherche, mais parce que j'avais peur. Mais après, je me suis rendu compte que lorsque j'ai parlé avec les gens, ils me disaient, ah ben oui, je suis noir. Alors, et les gens trouvaient ça intéressant de trouver quelqu'un aussi racialisé en tant que latino. Parce que c'est là, c'est ici, donc je me suis vu en tant que latino, qu'ils acceptaient de parler avec moi. Il y a eu même des gens qui m'ont dit, bon, si tu étais français, je ne t'aurais pas donné l'entretien. Mais ça a été la même chose pour la Colombie. En Colombie, et c'est l'opposé. Même si je ne suis pas issu d'un milieu aisé et élite, je ne sais pas quoi, je représente quand même une sorte de personne privilégiée dans mon pays. Je suis un peu métisse, quoi. Je ne suis pas blanc. Ben, y a des blancs peut-être en Colombie. Je suis un peu métisse, mais il y a eu quand même au début des méfiances auprès de mon enquête. Et il y a toujours de la méfiance. Alors, il faut dire que la semaine prochaine, il y a une rencontre à Bogota sur les femmes noires à l'université. Ils m'ont invité à parler de femmes noires. Il y a quelques-unes des gens des associations qui ne voulaient pas que je participe dans les colloques. Mais bon, et c'est comme ça. Donc, et je pense que c'est aussi intéressant de ne pas oublier ça. C'est-à-dire, on est toujours dans le registre des racialisations mutuelles. On est dans des rapports sociaux. Des genres, des classes, et des races, etc. Et pour l'anecdote sur la classe et sur la constitution des catégories raciales, bien sûr, évidemment, c'est-à-dire la race ne relève pas seulement des traits physiques ou des caractéristiques somatiques, comme l'appelait Colette Guillaumin. C'est aussi la construction de ce qui peut être entendu en tant que noir ou blanc, ou dans ce cas-là, latino, je ne sais pas quoi, ou métisse, etc. Et bien sûr qu'il y a des processus, et c'est ça ce qu'il faut entendre, c'est vraiment les processus contextuels et situationnelle du racisme.
Voilà.